Bakubele,
Ibakubele,
Bakubele,
Ibakubele,
Adiniye, Ibakubele,
Ibakubele,
Bakubele.
Thank you. c'est bien nous, Lion's Milk, vous ne rêvez pas, on est de retour, mais on a quitté New York et on est maintenant à Paris, chez Radio Campus Paris 93.9. Et ce soir, on a un super invité, on a le cofondateur de Hot Casa Records. Bienvenue Julien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Julien, ça
Salut
va?
Salut Serge.
Salut. Merci d'être venu, on est très très contente de t'avoir ici.
Très.
Très. Et je veux dire tout de suite que je peux faire beaucoup de fautes de français, je ne suis pas habitué à parler français au micro.
Mais les oreilles sont très tolérantes, je suis sûre,
oui.
Qui nous écoutent.
Mais on va tout de suite vous dire ce qu'on vient d'écouter en fait. Maintenant, au fond, vous écoutez Francis the Great. Look Up in the Sky. C'est Negro Nature. Et avant ça, vous avez écouté Blow, Gotta Get Me a Better Head. Et ça, Julien, c'était aussi sur votre volume 1, non?
Blow, on a sorti l'album en entier, qui est le volume 3 de ce groupe d'afro-rock nigérian, qui était produit par le batteur qui s'appelait Laolu Akins, qui s'occupe maintenant à la cause de l'équivalent de la SACEM et des droits des musiciens. Et après, ils ont une carrière plus disco jusqu'à 82-83, avec plusieurs volumes. Et Francis, donc c'est le il n'y a eu que deux albums de Francis. C'est un album de 77. C'est un personnage qui a enregistré à l'âge de 7 ans, qui a été produit par son père, qui était agent d'artiste noir en France. Et qui un jour a eu la bonne idée de produire son fils. Et son fils en fait a composé les paroles. Et il a organisé une session avec des musiciens des plus grandes pointures, avec des musiciens camerounais et antillais.
Ouais.
Et donc cette espèce de boucle hypnotique de 12 minutes. Et Look Up in the Sky où lui improvise. Et ça a eu un effet assez retentissant à l'époque parce que du coup il enchaîne sur un deuxième album qu'on va ressortir d'ailleurs courant 2016.
Cool.
Là, il y a un ami qui est en train de faire un edit de ce morceau. On fait une version instrumentale. Et donc, le deuxième album qui s'appelait Crazy Tube, on le ressortira en 2016. Donc, il n'y a eu que deux albums parce qu'après, il a fait une petite tournée en Afrique de l'Ouest. Il a bossé avec Manu Dibango, il a bossé avec les Maxwell, etc. Et puis, finalement, le papa décide de repartir à Yaoundé. Et on perd sa trace à partir de 82-83. Et nous, avec Jamel, mon collègue de bureau au label, on a mis 5 ans à le retrouver parce que en fait, son nom s'appelle Francis Barga. C'est l'équivalent de Jacques Dupont, il y en a un paquet. Et on a utilisé tous les subterfuges et autres pour retrouver. Et puis finalement, au bout de 5 ans, on l'a retrouvé. Au même moment qu'un label australien, du coup, ça a été un peu la guerre jusqu'au bout.
La compétition.
Et puis Francis, c'est devenu un grand ami. On a eu d'ailleurs un ami Armand qui est parti l'interview. Et du coup moi je l'ai tous les jours sur Skype et sur WhatsApp, il va super bien, donc il a 44 ans maintenant.
Il a un peu Francis.
Exactement. Et donc du coup cet album, c'est marrant parce qu'il y a eu un énorme impact dans plein de milieux différents en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'électronique, qui ont aimé ce côté synthé, un peu des débuts 80s, il y a le côté proto-hip-hop, un truc très binaire, on est à 102 ou 303 BPM, donc et puis c'est une rareté parce que ça a été produit à très peu d'exemplaires, donc du coup ça a toujours été comme ce qu'on appelle un holy grail, tout le monde voulait cet album qui coûte commence à coûter une espèce de blinde même. Et donc du coup il y a tout un mythe autour de cet album et on était très contents de l'avoir sorti et d'avoir pu faire une interview, d'avoir c'était une belle histoire.
Et t'as beaucoup d'autres histoires avec toutes
chaque
édition,
on va te sympathiser. C'est fou parce que chaque artiste a une histoire de dingue.
Ouais.
Tu as passé Itadi tout à l'heure, c'est un artiste togolais, pareil. C'est un artiste qui s'est fait, il fait une chanson folk contre le président. Le lendemain, sa maison brûle. Il est obligé de partir.
Ouais.
Et le seul truc qu'il a sous le bras, c'est ses bandes et à la limite le contrat de disque qu'il avait d'époque, parce qu'il avait organisé ça dans une radio ghanéenne. À l'époque, on enregistrait beaucoup dans les radios d'ailleurs. Et du coup, il se marie aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs un enfant qui est un célèbre rappeur aux États-Unis à Washington, qui s'appelle Kay Bonnie. Et du coup, il est revenu au Togo de temps en temps. Et malheureusement, il est décédé il y a 2 ans. Et il avait une voix d'espèce de voix de baryton énorme au téléphone. Il faisait vibrer le téléphone. Et du coup, il a eu plusieurs albums. Et là, pareil, on est sur le travail d'une compilation sur le Togo et on va inclure un distrait rare de lui. un maxi qu'il avait fait 2 ans après celui-là.
Ouais. Et parlons des compilations maintenant. Mm-hmm. C'est votre première compilation Ivory Coast Soul.
Il y en a eu deux. Ça, c'est Ali Ibrahim qu'on avait.
Ouais. Maintenant, c'est au fond. Ali Ibrahim, là, il a la haut. Et ça, c'est votre Ivory Coast Soul. Et vous en avez fait deux, exactement.
On fait deux et on bosse sur la 3. Ouais. Qui sera plus Cosmic Sound, comme on dit, qui sera donc plus fin 70, début 80. Ouais. Toujours sur la scène à Abidjan. Donc la scène à Abidjan, il faut savoir qu'elle était très métissée. Parce qu'Abidjan était une capitale économique très forte. Donc il y avait des Gambiens, des Ghanéens, des Maliens. Et dans les groupes, ça se ressentait. C'était très panafricain. Avec ce côté, c'était une capitale économiquement très forte. Donc du coup, ça jouait beaucoup. Tous les soirs, il y avait beaucoup de maquis, beaucoup de lieux où ça jouait. Et il faut savoir que, pareil, en Côte d'Ivoire, il y a quasiment 90 langues. Donc chaque musique a aussi ses particularités. Mais donc cette scène un peu afro-funk, afro-soul, était très métissée. Avec Ali Ibrahim, donc il y a beaucoup de textes sur l'islam d'ailleurs, avec des références à la religion et autres. Mais il y a toujours ce côté funky qui sous-tend. Et ça, c'est produit par un label qui s'appelait Badmos, qui était un très très gros disquaire à l'époque à Abidjan, qui existe toujours. Et dont on est pareil, on est en rapport quotidien avec lui sur pas mal de licences, parce que l'idée, c'est évidemment de demander les droits et pour les rééditer. Donc voilà.
Bon, on va continuer avec votre catalogue qui commence de 2002.
On a commencé en 2002. Et le premier disque était en 2003. C'était d'abord une production. Ouais. C'était un artiste appelé Franck Billon. C'était un premier 45 tours. Et puis avec le temps, on a beaucoup travaillé avec lui. Puis on a ouvert aux rééditions sur 2005-2006.
Ouais. Et ce soir, on se focalise sur ça. C'est impossible de jouer tout. Et c'est aussi ce qu'on aime ici à Lion's Milk, les années 70 en plus. Ouais. Donc on va continuer avec une autre chanson de Ivory Coast Soul, la première, qui vient après Ali Ibrahim. Et après, on va vous retrouver.
Ouais, on va faire une petite interview après pour savoir un peu plus de choses.
Plus de Hot Castle Records.
Ouais.
On est ici avec Julien Lebrun et c'est Lion's Milk.
Lion's Milk. Al-Hari ya bi mugunta Allah. Al-Hari ya bi mugunta Allah.
Live! Thank you. like a mother like Jack. Sometimes I breathe like a mother like Jack. Sometimes I breathe like a mother like Jack. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel.
Lion's Milk sur Radio Campus Paris 93.9. Et nous sommes en compagnie de Julien Lebrun, le cofondateur de Hot Castle Records. Julien.
Enchanté.
Oh oui, j'ai plein de questions. Je suis remplie de curiosité par rapport à comment Hot Castle Records est arrivé sur cette planète. Comment tu as atterri dans ce milieu?
Je rencontre dans une radio Jamel Amadi en 98 sur Génération à l'époque. On était tous les deux diggers de soul et de funk. Moi, je cherchais des samples. Lui était plus DJ déjà à l'époque. Moi, je commençais aussi à organiser des soirées. Puis, on a commencé à organiser des soirées ensemble et à devenir résident d'endroits à Paris où on était DJ. On bossait tous les jours dans des endroits plus ou moins intéressants aujourd'hui.
Ouais.
Et du coup, on décide de... On bosse sur un resto à connotation afro dès 2000 sur les Champs. Et du coup, on a toujours été plongé dans la musique africaine, mais là c'était carrément un boulot hebdomadaire, du coup.
Ouais.
Des premiers voyages et puis des recherches de disques et puis le digging qui est toujours un peu lié en fait, de la soul, du jazz. On fouille l'afro et du coup beaucoup de voyages du
ouais.
Sénégal au Bénin en passant par le Zimbabwe. Là je pars au Togo la semaine prochaine. Enfin, il y a déjà
ouais,
beaucoup aussi.
Je t'envie.
Et du coup, le label naît en 2002 et puis aujourd'hui, on est à 37 sorties.
D'accord.
Voilà.
Impressionnant. Et de la musique, c'était toujours dans ta jeunesse, dans ton enfance, c'était toujours un truc
ouais.
présent.
Toujours, on parle grand frère qui écoutait beaucoup de funk et puis du
ouais.
coup, génération hip-hop, moi je dès l'école, c'était vraiment une culture à l'époque, donc du coup, on est toujours, mais qui se perd malheureusement. Mais du coup,
ouais.
Très vite dans tout ce qui touche au sample, donc du coup, et les groupes de hip-hop, mais aussi la culture du jazz. et du coup de la soul et du funk, et tu veux toujours chercher la boucle, la rareté, puis du coup les premières brocantes, aller chercher des disques à pas d'heure, voyager, aller à New York chercher des boucles et des groupes, aller voir les premiers concerts, donc c'était un espèce de virus. Et puis à Paris naissaient déjà aussi pas mal de groupes et de collectifs de DJ comme les Pure, les Big Cheese, qui organisaient, c'était l'espèce de revival de funk avec les Malka, les Family qui jouaient aussi en live. Donc c'est toute cette scène, on va dire, 90s, qui était acid jazz en Angleterre, mais qui était rare groove à Paris aussi.
Enfin,
tout était lié. Hein, mais, et du coup, dans les années 90, il y avait une espèce d'émulation musicale tous les mardis. Chacun allait chercher ses petits maxis de hip-hop. Il y avait des soirées, des groupes. Moi, j'étais beatmaker de groupe aussi. C'était une vraie émulation. Et du coup, c'est infini. Et puis la musique et le digging est infini. C'est le principe de ce métier, cette passion, et qui est devenu un métier pour certains. C'est que c'est infini. Et notamment, malheureusement, cette musique du continent africain était méconnue. Et il y a toujours encore des pièces à découvrir. Et c'était une musique qui était justement assez universelle parce qu'elle était très fusionnée avec la soul. James Brown a vraiment influencé la musique africaine dans les années 70, et du coup les musiques traditionnelles ont fusionné avec la funk et la soul. Il y avait une espèce d'émergence musicale, et la production est vraiment énorme, notamment à Abidjan, à Lagos et dans toutes les capitales africaines, quelles qu'elles soient, et du coup c'est pour ça qu'il y a des compiles Kenya, il y a des compiles même en Centrafrique, etc. Il y avait dans tous les pays il y avait une émulation musicale, et ça jouait beaucoup. Et donc du coup il y a encore des milliers de morceaux à trouver, et puis il y a des anecdotes hallucinantes sur chacun, sur chaque artiste. Là on a écouté tout à l'heure Roger Damaouzan, qui est ce qu'on appelait le James Brown de Lomé, qui est le roi du gazo, justement, qui a fusionné la musique traditionnelle togolaise avec les... Lui était passionné de James Brown, il allait à la bibliothèque tout le temps, et il regardait les vidéos, écoutait, etc. et étudiait les paroles. Il a appris l'anglais comme ça en écoutant. Il partait au Ghana apprendre l'anglais, qui est juste à côté de Lomé, pour s'influencer. Et du coup, il a gagné un prix national de la chanson, c'est en 72. Et il peut sortir son premier maxi, Wait For Me. Et de là, suit une carrière. Après, il a bossé pour un hôtel de touristes, l'hôtel Tropicana. Et il y a cet inédit que vous en avez écouté tout à l'heure, de la reprise de Mother Let's Child, avec la plus grande chanteuse, avec Bella Bello. C'était la plus grande chanteuse togolaise, qui s'appelait Akofa Akusa.
Qui est sublime.
Qui est sublime.
Sa voix,
et d'ailleurs, il y a un album d'elle qui est extraordinaire. Et on va essayer justement de le mettre sur la compil Togo Soul l'année prochaine. Et qui est malheureusement décédé là, mais et donc Roger est toujours en vie, et heureusement on va réussir grâce à Antoine et au Voodoo Game de Lyon, parce que c'est aussi Peter Solo, c'est l'oncle de Peter Solo, le leader de Voodoo Game. On va réussir normalement, si tout se passe bien, à le faire venir pour Banlieue Bleue et faire une petite tournée française, voire européenne. On est en train de monter ça sur 2016, et okay. Antoine Rajon est en train de monter ça.
Super.
Ouais.
Et Julien, j'ai une question par rapport à votre commencement,
oui,
du label, parce que c'est très intéressant que vous ne commencez pas avec les rééditions.
Oui.
Donc au début, vous aviez l'idée de faire des rééditions, ou c'était juste production?
Tout était lié. L'ADN a toujours été 50-50, production, réédition. Après, la production a pris beaucoup de temps parce qu'on a bossé pendant longtemps avec des artistes.
5 ans, moi, non ?
Ouais. Mmh. Et c'était des processus très longs d'enregistrement. Parce qu'on fait tout. Haute Cassa, ça veut dire fait maison, en guillemets. Donc tout est fait un peu avec les moyens du bord. On est un micro-label, c'est un peu la débrouille. Et du coup, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais c'est pour ça qu'on fait ça aussi.
Et vous avez continué après 2009, en fait, je pense, avec beaucoup de rééditions. Et maintenant, en 2015, vous pensez que le label a une tendance plutôt production, ou c'est toujours 50-50?
C'est 50-50, je pense, parce que là du coup on a eu des très belles histoires avec Voodoo Game, avec Setenta, avec là on s'ouvre sur une chanteuse de jazz américaine qui vit ici.
D'accord.
Donc on reste toujours l'ADN est vraiment afro-funk, afro-soul, mais on ouvre aussi sur on voulait féminiser un peu le catalogue.
Trop bien. Vous faites aussi des collaborations avec Orlando Julius et Setenta. Est-ce que c'était toi qui as organisé les concerts?
Oui. Orlando, en fait, c'est une belle histoire parce que c'est un disque qu'on avait trouvé au début
Disco High Life.
Disco High Life, on avait trouvé au début des années 2000 et puis on a réussi à le mettre sur une compile et puis le morceau passe en radio sur Nova, ça devient un espèce de tube de soirée ici. Et puis c'est quelqu'un qui a une énorme histoire, qui a rencontré James Brown, qui a bossé pour Gisco Terron, qui a vécu aux États-Unis pendant une vingtaine d'années et puis qui était un peu malheureusement qui a comme souvent une espèce de creux fin 80 début 90. Et il avait évidemment plein de choses à dire, donc du coup, c'est un peu l'intérêt du label aussi, justement, c'est de pouvoir ressortir, outre les disques, le faire venir à Vienne, le faire rencontrer, etc. Ouais. Et puis là, le fait que, justement, maintenant, il ait les moyens de bosser avec les Heliocentrix, là, il fait une tournée américaine, il joue à Berlin, et c'est une personne extraordinaire, donc du coup, ça fait du bien et plaisir, quoi.
Et avec les autres labels comme Soundway, Another Guy,
Très pote. Ouais, Miles, c'est un ami. En fait, on a le dénominateur commun, c'est aussi Nicodemus à New York, Turntable on the Hudson, qui est pour moi la meilleure soirée du. Parce que justement, il a réussi à inviter les meilleurs DJ, ou en tout cas ceux qui essayent de jouer autre chose que ce qu'on impose. Et il a invité les Peterson, les Truby, justement Miles Clirette. Il est justement ouvert à d'autres musiques. Et donc, du coup, Miles, c'est un super pote. Ouais.
Mais
tout comme Analog Africa qui fait un super boulot.
Ouais, ça m'a bien
et
l'air.
Qui ont donné d'ailleurs qui ont imposé un certain niveau de production en termes de grammage de disques, en termes de mastering, en termes d'informations, de bouclettes.
Ouais.
Et ça, c'est super parce qu'il y a eu, dans les années 90, il y a eu beaucoup de bootlegs. C'est-à-dire qu'on faisait des compiles afro, ça voulait dire tout et n'importe quoi.
Ouais.
Il y avait du Cameroun, du Ghana, tout mélangé. Et justement, Soundway sont arrivés avec des thématiques, des interviews, des licences. Et ça, c'est cool parce que du coup, ça a un peu cliné le milieu.
Ouais, par exemple, tu nous as parlé de ce prochain compilation de Togo. Et par exemple, avant de commencer à faire ce boulot, est-ce que vous partagez ça, que vous allez faire ça, ou est-ce que c'est quelque chose un peu discret jusqu'à cette sortie ou...
Aujourd'hui, tout est fuité, etc. Mais bah, oui, comme tu dis, rien n'est fait, donc c'est vrai que. Mais en tout cas, on part finaliser ce principe-là, ouais.
Ouais, cool. À ça?
Bah non, alors moi j'ai une question un peu stupide peut-être, mais t'as un peu répondu quand tu m'as dit que c'était fait maison, que Hot Car, ça c'était l'idée de fait maison. Donc ouais, j'allais te poser cette question-là. Et aussi, c'est bête, mais en fait non, c'est pas bête, parce que sur votre site, vous parlez du design énormément, tu parles de l'art, quoi, de l'objet de vinyle. Et je me demandais qui est derrière ça. Est-ce que c'est toi aussi qui est dans le...
Ah ben, on a la chance, c'est l'avantage de l'afro-funk, l'afro-beat, etc. C'est que les pochettes d'origine sont déjà fantastiques.
Ouais, c'est
là,
clair.
J'ai déjà dit dans les yeux, avec sa salopette rouge, les
voix gardées. Ouais, incroyable.
Tu peux pas refaire ça.
Itadi, c'est aussi original. La réédition d'Itadi, c'est aussi la couverture originale.
C'est la couverture originale, ouais. On reste pour les couvertures, on ne touche à rien.
Ah, d'accord.
D'accord.
C'est que sur les compilations qu'on improvise un fond et on met en design, justement, on redesigne les photos.
Ouais.
Mais sinon, toutes les covers sont c'est de la réédition pure et dure. On fait tout à l'identique. L'idée, c'est de d'en faire. C'est un peu une clique de collectionneurs très pointilleux. Donc, on s'oblige à faire un grammage très particulier qui est limite japonais. On justement tout à l'identique. Mm-hmm. Si tu changes, les collectionneurs seront pas contents, en fait.
Ouais. Et à Paris, avec des magasins, je vois beaucoup de vos produits à Superfly.
Mm-hmm.
C'est quoi d'autres magasins peut-être que
Bettino, Silence de la rue, Patate Records, Les Puces, beaucoup de provinces. C'est marrant parce que par exemple, dédicace à eux, il y a un magasin qui va s'ouvrir à Strasbourg dans cette semaine.
Ah cool.
Et on envoie des disques à Nyons, à Nantes, à Toulouse, Madine, qui est un très bon disquaire. Il y a des très bons disquaires en province. Et il y a un disquaire qui s'est ouvert à Annecy, qui fait café plus disquaire.
Ouais.
Il y a Galette à Marseille. Enfin, Sofa à Lyon, qui est extraordinaire. Enfin, c'est marrant. C'est la renaissance, entre guillemets, parce que le vinyle n'est jamais mort, mais c'est intéressant parce que du coup c'est une vraie culture et c'est une petite économie, mais en tout cas c'est là et je pense que ça va tenir parce que c'est plus qu'un effet de mode, en fait.
Ouais.
C'est un vrai, pas un mode de vie, mais le disque, cette espèce de passion. Bon, après, c'est un peu compétition, j'en ai une plus grosse, etc. C'est un peu chiant des fois. Mais c'est une vraie culture de l'objet, de l'art, du disque, etc. Donc, du coup, ça meurt jamais en fait.
Ouais. Et même à l'étranger, quand je faisais la recherche aujourd'hui, j'ai oublié lequel disque, mais c'était même. On habitait à East Village, à New York. Mm-hmm. Et il y a un magasin qui s'appelle Turntable Lab.
Bien sûr.
Et il vendait Hot Castle Records.
David
Azzoni. C'est partout en fait.
Oui. Et on. Bah, l'avantage, oui, c'est que c'est nous, 90% des disques sont vendus à l'étranger, en fait.
Ah ouais.
Le label est majoritairement à l'export, majoritairement aux États-Unis, beaucoup à Londres, beaucoup de DJ, et beaucoup l'Allemagne.
Et beaucoup de Discogs, en fait.
Et un peu de Discogs, ouais, beaucoup. Enfin, moi, ouais, je passe ma vie à la poste faire des paquets.
Ouais. C'est clair. Et on parlait tout à l'heure du Mellotron.
Oui.
Comment tu trouves l'ambiance là-bas et ça fait combien de temps que tu joues là-bas?
Je crois que c'est drôle, c'est aujourd'hui la troisième année pile.
Ah, cool.
J'ai vu Guillaume, le grand chef de l'antenne, qui a posté ça. C'est une bimensuelle le mardi soir. Écoute, c'est très sympa. C'est justement, à mon avis, les seuls qui s'autorisent à mettre de la musique originale, différente, qui supportent, qui sont professionnels. Le son est bon, la plateforme est belle. Ils organisent des belles soirées. Enfin,
Le lieu est chouette.
Enfin, heureusement qu'ils sont là par rapport à une énergie parisienne qui est souvent un peu terne et on gueule toujours sur Paris qui est chiant, etc. En fait, c'est une énergie très très positive et très éclectique. Il y a des beatmakers, des pointus, toutes sortes de musiques et ils sont. C'est vraiment aujourd'hui dans le paysage où les radios sont malheureusement un peu en. Il n'y a plus trop d'espace à part FIP et eux, on en parlait tout à l'heure. Nova est plus condensé en termes de playlist et tout. Donc vive ce genre de truc, vive Radio Meux, vive RTU, vive toutes ces radios justement qui supportent d'autres choses. Quoi.
Et tu viens de nous dire que aussi à Lyon, maintenant tu commences.
Oui, normalement,
ça devient RTU, chaque semaine.
RTU, ouais, le mardi sur RTU à Lyon.
Cool. Et je veux très très beaucoup savoir un peu les anecdotes sur Pierre-Antoine.
Ah, Pierre-Antoine.
Bright Angel Birds. Mais avant ça, est-ce que tu as des questions aussi?
Non, on en a plus ou moins parlé, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cet engouement dont tu parles. Et justement, tu nies que c'est un phénomène de mode, mais cette passion qui se développe et qui s'inscrit, je trouve, vraiment dans le 21e siècle dig in the past, dig dans le passé.
Mais après, dans toute société, enfin après, je sais pas, mais il y a quand il y a des gros, tout est immatériel maintenant, on est tous connectés, machin. Il y a toujours des gros retours à l'objet où c'est comme quand le système impose un truc, il y a toujours des anti. Et justement, le retour au vinyle, enfin, c'est pas un retour, c'est justement cette continuité de l'objet, etc. C'est parce qu'aujourd'hui la musique, l'économie du disque est en train d'exploser et a explosé depuis 10 ans, et le vinyle est en fait le dernier garant de la musique en tant que telle, aussi parce que tout a été dématérialisé, on peut retrouver l'objet, quoi. Il y a un retour à l'objet.
Ouais. Je pensais même en soi, ça peut s'appliquer à d'autres médiums au-delà de la musique, et je trouve ça juste intéressant de réfléchir à cette question-là. Mais le vintage, par exemple, et cette obsession de, dans la mode, dans les objets même, cette passion de. Et je me demandais simplement si c'était un truc qui s'inscrivait vraiment dans cette époque dans laquelle on est, ou si c'était une sorte de récurrence, un aspect cyclique de toujours. Je me demandais, mais bon, tu as plus ou moins répondu.
On a aussi une autre amie, Laura. Est-ce que tu as des questions?
Oui, ma vieille amie, Laura.
Pour l'instant, je n'ose pas dire quoi que ce soit, donc je pense que je vais me taire.
D'accord. Oh. Bon, je vais très très vite vous dire ce qu'on écoute et ce qu'on vient d'écouter.
Oh oui.
Maintenant, au fond, on écoute de Kenny Okubo.
Okulolo. Qui était le bassiste.
Pardon.
Oui. Qui bossait avec Johnny Astruc, qui avait aussi beaucoup côtoyé Fela, et qui est une personne qui vit maintenant sur la côte est américaine, qui s'est mariée avec une américaine qui s'appelle Jackie Wilson, que je salue parce que je suis souvent les radios.
Hello,
les
Jackie. Radio.
Et Kenny joue toujours, il a un groupe d'afro-funk Et il a fait cet album qui est très très rare. Pour le coup, je pense que c'est un des albums les plus rares qu'on ait sorti. Et c'est un 45 tours d'ailleurs, parce que l'album était un peu gâté. Et c'est ce qu'on appelle Holy Grail, c'est des disques qui peuvent malheureusement coûter très très cher. Mmh. On peut trouver ça sur eBay à 1000€, ou c'est des pièces.
Ouais,
quand
ça
même,
commence comme ça.
Et voilà. Et Kenny donc voilà, s'est installé aux États-Unis. Il continue. Si vous allez sur iTunes, il a sorti un très très bon morceau d'ailleurs il y a 2-3 ans avec un collectif de Auckland. Et du coup, Johnny Astrup aussi vit à Auckland. Et Kenny, du coup, maintenant je crois qu'il est en Californie.
C'est cool. Et ce morceau, c'est Call Me a Fool Today.
Yep.
I'll Be Wise Tomorrow. Et maintenant, en fait, on passe à Johnny Astrup. The wake up your mind,
mind.
The funk row.
Yep.
Et avant tout ça, on a écouté Ogasa Story.
Ogasa, qui est un groupe béninois, qui était basé à Porto Novo. Alors malheureusement, tous les membres sont décédés. Et c'est aussi un album très très rare, parce que le label Albarica l'a même pas référencé dans son listing. Donc du coup, c'était un album très très rare et ça nous a fait, enfin voilà, c'était compliqué à sortir parce que Jamel avait une copie et Sami Benrejem nous a aidé aussi que je salue, de Analog Africa, qui sort une très belle compile sur le Sénégal, et il faut supporter parce que c'est un très bel objet, enfin, qui fait beaucoup de bon boulot, il interview, etc.
Ouais.
Et qui nous avait aidé sur le bac d'une pochette. Voilà.
Ah.
Et on salue Jamel Amadi, parce qu'il n'est pas avec nous ce soir.
Il est à Drancy avec ses enfants et je salue évidemment.
Ah voilà.
Oui. Et avant Ogasa, on a entendu Prince Digibbs Oginwe, qui est aussi de Ivory Coast Soul.
Yep.
Et donc après ça, maintenant on va continuer avec Ivory Coast Soul numéro 2. Et on va jouer une autre. Mais vous avez, je pense que cet morceau de Pierre-Antoine, Yeah Man Non, vous l'avez sorti en premier avec Ivory Coast Soul et après en, fait, en entier.
Pour moi, ça c'est un goût très personnel. Je pense que c'est un des morceaux le plus. Moi, le plus beau de ce qu'on a fait.
Parce c'est pour ça que je voulais laisser à la fin.
Parce que c'est un afrobeat assez unique, parce que pareil, il y a du piano, ce qui est très rare dans l'afrobeat. C'est un morceau de 12 ou 13 minutes qui est magnifique. Lui a une histoire folle, c'est-à-dire que ce morceau, il a sorti un peu. À l'époque, il s'est fait haïr par la presse, qu'il a dit que c'était du soufféla et que c'était pas très original. Du coup, lui a complètement arrêté. Il est parti sur une carrière de secousse et des trucs de pop plus on va dire, moins intéressants. Et malheureusement, il est mort assez jeune. Il est mort à 40 ans à Abidjan, personne s'intéressait à lui en fait. Et c'est pour moi l'un des plus grands créateurs de ces 30 dernières années.
Ouais.
Ce morceau est sublimissime. Quoi.
Et t'as rencontré avec son frère, non ?
Son frère, oui, dont la fille vit à Toulouse. Et puis on a réussi à se croiser. Et lui, il est entre Abidjan et Paris, donc du coup, c'était une super rencontre, quelqu'un de très brillant.
Ouais.
Et Pierre-Antoine, oui, c'est sublimissime.
Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je viens de l'écouter aujourd'hui, en fait.
D'accord.
Je ne savais pas. Et après, on va finir avec Bright Engelbert Shifty Hand Woman. Donc, est-ce que vous avez des mots maintenant avant qu'on continue avec...
Quelques mots juste pour dire merci à Julien d'être venu.
Ouais. C'est moi.
Voilà, c'était très, très intéressant.
Exactement. Et oui, c'est ça. C'est la première émission de Lion's Milk sur Radio Campus.
Mais pas la dernière.
Paris, mais pas la dernière. Sur
93.9.
Baby, let us do the funk row dance. Brother, let us do the funk row dance. Oh, it's the latest dance, and it's gonna make you move. So come on, do it, do it. Do the funk row, baby. Do it, ijo ala do funk row. Do it, ijo ala do funk row. Thank you.
Yeah, it's a moment.
voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première version française de Lion's Milk sur Radio Campus avec notre invité Julien Lebrun. Donc voilà, c'était incroyable d'entendre toutes ces histoires, toutes ces anecdotes.
Merci beaucoup.
Merci. Ouais, vraiment.
Merci, Sarjane. Merci. Oui.
Juste un dernier mot sur comment vous avez découvert Bright or Brith Engelbert.
Alors, c'est une production Badmos. Ça a été enregistré à Abidjan. Donc, du coup, et Badmos, donc c'est un label qui est basé à Abidjan. C'était un distributeur label. Et donc, il avait produit ça en 79, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, c'est par Badmos, en fait, que Jamel avait trouvé ce disque.
Ok. Parce que c'est de Cameroun, non ?
Lui est d'origine camerounaise, ouais. Oui. Mm. Mais encore une fois... c'était très lié, donc enregistré à Abidjan, mais avec des artistes camerounais.
D'accord.
Parce que Abidjan était vraiment une plaque tournante de studio, de production et de rencontres. Quoi. Mm.
Donc, et le nom de la chanson, c'est Shifty Woman, Shifty
Handy Woman. Oui, qui vient dans 30 secondes. Donc très vite, ce mardi, on peut t'écouter sur le Mellotron. Avec...
Sur Internet, ouais. Avec Osunade en invité. Mm-hmm. 19h.
D'accord. Donc on fait ça et vous venez d'écouter Lion's Milk. On vous laisse avec une chanson de Bright Engelbert.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
So crafty woman, you never know at first sight. Shifty and crafty woman, when I saw you, I never knew. You're a shifty and crafty woman, when I saw you, I never knew. When I saw you far away coming, your eyes of a shoe. When I saw you far away coming, your eyes of a shoe. You're just a shifty and crafty woman. When I saw you, I never knew. You're the most crazy thing, shifty woman. When I met you, could you just make out? Well, when I saw you far away coming, the eyes, your eyes of a shoe. Well, when I saw you far away coming, your eyes of a shoe. You're the most crazy thing, shifty woman. When I saw you, I never knew. You're the most crazy thing, shifty woman. When I met you, I couldn't just make out. Well, when I saw you far away coming, your figure of a shoe. When I saw you far away coming, your smile never shone. You're a shifty hand, crafty woman. When I saw you, I never knew. You're the most crazy thing, shifty woman. When I saw you, I never knew. When I saw you far away coming, your legs of a shoe. When I saw you far away coming, your shadow, shadow of a shoe. You're just the most crazy thing ever alive. Thank you.
You got the way you're broken me down, and now you throw me away. How could I have told this when I first saw you? Who should have told me I was just picking up a tiger by the tail? So when I saw you, I couldn't tell. You're just a shifty and crafty woman. When I met you, I couldn't just make out. Well, when I saw you far away coming, your smile ever shoot. When I saw you far away coming, your eyes of a shield. When I saw you far away coming, your figure never shield. Since you choose that way, shift you man.